With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et dans le chat, on demande... Ah oui, bah voilà, ça, c'est là où sera Thibaut, potentiellement. le chat demandait, est-ce que sur la place, il y aura la place pour Thibaut, vu sa largeur d'épaule. on va faire en sorte, ne vous inquiétez pas, on va faire la logistique. On va rentrer dans l'univers fascinant, du coup, de l'ère post-quantique et de l'informatique quantique. À quoi ils servent concrètement, ces ordinateurs? Quelles prouesses vont être possibles? Mais aussi, on sait que l'informatique quantique va avoir des graves conséquences sur nos systèmes de sécurité, le chiffrement de nos banques, de WhatsApp, peut-être même... des valises nucléaires des présidents, qui sait. On va pouvoir éclaircir tout ça justement avec notre expert en informatique quantique, Vivien. Merci d'être là.
C'est un plaisir.
Donc pour expliquer, tu travailles chez nos partenaires Microsoft. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton métier au quotidien?
Ouais, moi effectivement je suis ingénieur quantique donc chez Microsoft. Et donc mon rôle, ça va être typiquement, c'est assez varié, hein, mais en ce moment un truc que je fais pas mal, c'est de participer à un langage de programmation quantique qui s'appelle Q-Sharp. Et donc j'espère qu'on pourra montrer en fait Q-Sharp si on
bien
a,
sûr.
Si on a le temps.
Alors, juste, rien que ça, avec le concept de code quantique,
ouais.
Comment ça se fait? Comment c'est possible qu'il y ait déjà du code maintenant? C'est fou.
Ouais, c'est assez fou. Mais c'est vrai que tu peux dès maintenant ouvrir... Tu télécharges le Quantum Development Kit, ça s'appelle.
Okay.
Et puis tu as accès à Q-Sharp, qui est ce langage-là, et tu commences à écrire... Il y a des samples, il y a des trucs pour apprendre, il y a des katas, on appelle ça, pour apprendre.
Donc tu peux écrire des algorithmes quantiques.
T'écris des algorithmes quantiques. Et en plus, c'est assez facile à prendre en main, quoi. Donc okay. ça vaut le coup d'aller voir Quantum Development Kit et de faire ça.
Bah, on va vous, justement, rester avec nous. On va montrer un petit peu exactement ce qui se passe. D'abord, pour mettre un petit peu les bases, parce que tout le monde ne sait pas forcément exactement c'est quoi cette affaire. Comment ça se fait que l'informatique se soit... emparé de la physique quantique. Déjà, c'est quoi, ça veut dire quoi la physique quantique déjà?
Ouais. Effectivement, la physique quantique, ça existait bien avant l'informatique quantique finalement. C'est une théorie qui est plutôt jeune maintenant, qui a une centaine d'années.
Ouais.
Et le principe, c'est que c'est cette théorie qui va décrire des toutes petites particules. Donc ça va être des atomes, des électrons, des photons, des trucs comme ça qui sont, par rapport au diamètre d'un cheveu par exemple,
ouais.
Ça va être 10 000 fois plus petit, donc
d'accord.
Des trucs vraiment petits. Et en fait, on a cette théorie qui arrive à bien les décrire. Et cette théorie, elle a été super fructueuse dans tout le XXe siècle. Ça nous a donné plein de technos qu'on utilise aujourd'hui. Donc je sais pas, on peut citer quoi, le laser, les IRM dans le médical. Mais même en fait, si on parle de nos machines là, d'informatique, finalement, le fait qu'on ait réussi à faire les processeurs qu'on a aujourd'hui avec des semi-conducteurs, avec des transistors, ça a été possible parce qu'on a bien compris comment fonctionnaient les aspects quantiques de ces composants.
Incroyable. Donc oui, ça permet de décrire en gros qu'est-ce qui se passe dans l'infiniment petit où les règles sont pas les mêmes que les échelles macroscopiques où il y a des choses comme la ouais. gravité. À l'échelle du tout petit, c'est un peu le bordel. Il y a notamment des trucs qui sont pas du tout intuitifs de ce
ouais.
que j'ai compris et qui sont du coup très durs à appréhender pour notre pensée en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Donc autant ça a eu énormément de succès en termes de techno, autant ça reste compliqué à comprendre avec l'intuition. Notamment un truc qui est super bizarre, c'est que quand tu décris ces petites particules là, disons un atome par exemple, bah tu vas pas pouvoir dire l'atome il est exactement là et il va exactement à cette vitesse. Tu vois, donner son état quantique, donc tu le décris d'une certaine façon, peu importe comment. Mais ça va te dire où il est en proba. C'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace, tu vas avoir une certaine proba qui soit là.
C'est comme si moi, là, je disais, actuellement, t'es pas sur cette chaise, mais t'as une chance sur deux d'être sur celle-là et une chance sur deux d'être sur celle-là.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est même
très bizarre.
en chaque point de l'espace.
Ouais.
Donc c'est ça qui est complètement fou. Pour la vitesse, c'est pareil. Tu peux pas dire, il va telle particule, elle va à telle vitesse dans telle direction. Tu vas dire, voilà... il y a une certaine proba que ce soit cette vitesse, voilà.
Bon,
Donc,
on arrive à mieux comprendre, il y a des équations, etc., pour mieux comprendre l'univers du tout petit. Ça a permis IRM, même la façon de faire des processeurs, etc. Mm. Mais c'est quoi la différence entre ça et ce qu'on appelle l'informatique quantique?
Ouais, alors ça, c'est arrivé effectivement beaucoup plus tard. Et en fait, la relation entre le quantique et l'informatique, à la base, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à la base, c'était plutôt des gens qui essayaient d'utiliser des ordinateurs pour comprendre le quantique. Donc, ils faisaient des simulations, ils étaient sur leur ordi comme ça. Et puis, ça marchait pas très bien. Parce que bon, c'était plutôt dans les années 80, donc les ordis de l'époque, ils étaient beaucoup plus petits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce phénomène que la particule, elle a une proba d'être en plein d'endroits différents. On parle de superposition quantique, en fait, pour décrire ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à cause de cette superposition, la quantité de mémoire classique, si t'as un ordinateur classique dont tu as besoin pour décrire tout ça, elle va être absolument énorme.
Donc, on s'est retrouvé limité pour essayer de faire des calculs, c'est ça?
Ouais.
Avec des ordinateurs classiques.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, donc t'as un physicien dans les années 80 qui s'appelle Richard Feynman.
Ouais.
Et alors physicien méga star, hein. C'est un peu le Zinedine Zidane de la physique de l'époque. Je pense qu'il aurait pu avoir 15 ballons d'or s'il avait eu ça en physique. Ouais. Donc vraiment
tous les prix.
Et donc ouais. Et donc lui, il était à une de ses conférences et on lui disait, bah voilà, regarde, on a nos ordi, on essaie de simuler des particules, mais on est limité à cause de la superposition. Et il y a un jour où il s'est un peu énervé, il tape du poing sur la table, il se lève. Je sais pas si c'est exactement comme ça que c'est passé, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine. C'est comme ça qu'est la légende. Et il s'exclame, il dit « Nature is quantum, damn it !» Et il est pas content, quoi.
Ouais.
Et tout est dans ce « damn it » où vraiment tu sens que c'est sa frustration énorme. Et ce qu'il explique après, c'est que en fait, l'idée de prendre des ordis classiques pour simuler de la matière quantique, c'est pas une super idée parce que du coup, t'es du mauvais côté de la superposition en quelque sorte. Tu vois, t'as la superposition qui est contre toi. Alors que lui, son idée, c'est de dire, bah, ok, on a nos systèmes quantiques et on va utiliser d'autres...
ordinateurs.
Non, mais d'autres systèmes quantiques, en fait, qu'on contrôle mieux. Et comme ça, on va simuler du quantique avec du quantique.
D'accord.
C'est vraiment ça, son idée.
Okay.
Et donc ça, c'est la naissance de l'idée de l'ordinateur quantique. C'est de faire des simulations quantiques avec d'autres systèmes quantiques qu'on contrôle bien.
Ok. Et alors, du coup, très très concrètement, on peut voir parfois des images qui se baladent d'un ordinateur quantique. Et en fait, bon, ça ressemble un peu à un frigo, on peut le dire, ou un truc dans un endroit très froid. C'est quoi concrètement, tu vois, qu'est-ce que... on sait qu'un ordinateur, c'est principalement un processeur avec des portes logiques. C'est comment dans un ordinateur quantique?
Bah ouais, donc effectivement, vu de l'extérieur, ça va être, on appelle ça littéralement un frigo dans certains cas. Donc c'est une grosse boîte, 1 mètre de diamètre, 2 mètres de hauteur. Et il faut que ça soit, alors froid, c'est plus froid qu'un frigo standard, c'est à moins 270.
Ok.
À moins 273,15, tu vois.
C'est joli comme frigo quand même.
Ah bah oui, on le voit là. Ouais, bah c'est ça.
c'est
tout doré, c'est très beau. Et alors c'est quoi concrètement? En fait, peut-être pour parler de ça, c'est bien de... On dit souvent un ordi classique, ça calcule avec des 0 et des 1.
Ouais.
Et donc, bien sûr, il n'y a pas un petit lutin à l'intérieur qui a écrit des 0 et des 1. Donc, je sais pas, à une époque, ça a été des cartes perforées plutôt.
Ouais.
Donc là,
le trou, c'était 1.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Le trou, c'est 1.
Donc aujourd'hui, c'est d'autres manières, avec l'électricité, de stocker un 0 et un 1.
Ouais, c'est ça.
Et donc, sur un ordi quantique, ça se passe comment?
Et sur un ordi quantique, ça se passe pas comme ça. L'élément, l'équivalent du bit, qu'on appelle un quantum bit, donc on dit qubit, de façon contractée, ça va être une petite particule quantique. Donc typiquement, un électron qui peut être près du noyau de son atome, ça va être le zéro quantique. Ou alors, un tout petit peu plus loin, ça va être le 1 quantique. Et là, t'as ton élément quantique. Et alors après, pour faire des calculs, pour le manipuler, ça va pouvoir se passer par exemple avec un laser. Donc t'envoies une petite impulsion lumineuse avec ton laser et tu le fais passer comme ça de l'état 0 à de l'état 1 ou de l'état 1 à l'état 0. Et même si t'envoies une impulsion lumineuse plus courte que ce qui te ferait passer de l'état 0 à l'état 1, tu vas le mettre dans ces fameux états de superposition où en fait l'électron, il est avec une certaine proba, il va être près du noyau et avec une autre proba, il va être beaucoup plus loin. Et donc là, tu sors des trucs que tu peux faire avec un ordi classique.
C'est ça, parce que pour l'instant, ça ressemblait juste à un processeur pas optimisé du tout.
Ouais.
Du coup, c'est cette fameuse troisième possibilité, cet état de superposition. Concrètement, qu'est-ce que ça permet d'un point de vue très concret en termes de calcul d'un processeur? Qu'est-ce qui est hors de portée d'un ordi classique qui devient possible?
Ouais, en fait, ça va ouvrir la porte à plein d'applications. Donc typiquement, donc si on reste dans les idées de Feynman, là, de faire de la simulation moléculaire, en fait, tu vas avoir des applications pour trouver des catalyseurs pour des réactions chimiques qui nous intéressent. Donc par exemple là-dessus, il y a une réaction de capture du carbone. Il y a un papier qui a été sorti en 2020. Donc c'était l'équipe de Zurich et des gens de Microsoft Research qui ont fait ça ensemble. Et en fait, ce qu'ils arrivent à dire, c'est que c'est de voir combien de portes quantiques il faudrait appliquer, donc quelle durée de calcul quantique il faudrait faire pour arriver à trouver un catalyseur, donc une autre molécule qui te permette de faire de façon efficace cette réaction de capture du carbone. Donc en entrée, tu as du CO2 et puis tu arrives à le faire réagir et en sortie, tu as du méthane. Donc tu es content, tu as réussi à capter du carbone comme ça.
Donc là, je sais qu'il y a notamment la notion du nombre de qubits qu'on a à disposition. Et parfois, on voit dans les gros titres, on a réussi à faire un ordi avec tant de qubits.
Ouais.
Concrètement, ça veut dire quoi? Et pourquoi on en veut plus?
Oui, donc le qubit, bah, c'est vraiment l'équivalent du bit classique. Donc typiquement, dans un laptop normal, tu vas avoir quelques gigas de mémoire.
Ouais.
Et là, effectivement, les meilleures machines, parce que bon, il existe des ordinateurs quantiques aujourd'hui, c'est déjà la bonne nouvelle.
Ouais.
Mais les meilleures machines, elles vont avoir de l'ordre de 100 qubits, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur, quoi, une centaine. Et donc, si on veut arriver à faire ces applications, là, typiquement, trouver le catalyseur pour la capture du carbone, il va falloir beaucoup plus que ça.
Ok, genre combien?
Bah typiquement 1000, 2000, mais surtout, il faudrait de l'ordre de 1000, mais des qubits quasi parfaits, donc ils font très très peu d'erreurs. Donc ça, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé encore. Les qubits d'aujourd'hui, les ordi quantiques d'aujourd'hui, ils peuvent faire quelques calculs, mais au bout d'une dizaine, une centaine d'opérations, en général, il va y avoir une erreur. Alors que là, il faudrait plutôt faire 1000 milliards d'opérations pour trouver ce catalyseur pour ces applications.
Et ce qui se rapprochait de nos ordi actuels qui en font très peu.
Très peu d'erreurs, ouais, absolument, absolument. Et donc c'est là qu'on pourra vraiment avoir toutes ces applications. Mais il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que...
Il y a justement... Pardon, t'as une question.
Ah non, c'est pas vraiment une question, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Vivien. Effectivement, les ordinateurs quantiques, ça va être ultra puissant pour faire certaines tâches, mais pour d'autres tâches classiquement qu'on fait avec des ordinateurs classiques, ça va pas le faire mieux.
Mmh.
Donc en fait, Vivien fait bien de prendre l'exemple des molécules, puisque ça s'applique bien à ce type de calcul-là, ça s'applique bien aussi aux calculs d'optimisation et des trucs comme ça, mais par exemple, pour faire tourner un jeu, ce sera pas mieux, tu vois.
Mmh. Bah, c'est justement la question que j'allais poser, c'est que dans l'imaginaire, pour nous, ordinateur égale ma tour PC que j'ai à côté de chez moi pour faire tourner Doom. Est-ce qu'on va avoir un jour des ordinateurs quantiques à la maison ou pas?
Non, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas.
Non, je pense pas. Alors, ouais, c'est un tel matos que ça prendrait beaucoup trop de place et ce serait très, très, très énergivore.
Okay. Ouais.
Donc,
Non, et puis, en fait, il y a deux problèmes. Il y a qu'effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit très froid, soit très, très bien isolé. Donc il y en a, on en parlait tout à l'heure, il y en a qui doivent être dans des chambres à vide, d'autres façons de faire des ordinateurs quantiques, où tu veux que, donc là c'est des ions piégés, tu veux qu'ils soient vraiment dans le vide total. Donc ça c'est typiquement une chambre à vide, c'est pas le truc que t'auras chez toi. Donc à la fois ça serait super galère de l'avoir chez soi, et en plus ça serait pas super utile, parce que les tâches qu'ils font sont assez spécialisées, et on va jamais, comme tu disais, on va jamais faire un jeu...
Oui.
Okay.
Ou envoyer un texto soi, quantique. Ou, voilà,
ouais, les problématiques de calcul d'optimisation de catalyseurs enzymatiques ou des trucs comme ça, a priori, t'as pas envie de le faire chez toi.
Samedi après-midi.
Peut-être le seul truc qui serait bien, c'est d'avoir un super prédicteur de météo. Mais je suis pas sûre que tout le monde a besoin d'avoir ça.
Il y a besoin, en effet. Mais justement, c'est, en parlant des applications, on a mentionné la recherche de pointe. Est-ce qu'il y a d'autres choses où on se dit, tiens, avec le quantique, on va pouvoir avoir des avancées révolutionnaires qu'on n'aurait pas rêvé sans?
Ouais, carrément. Donc, effectivement, au-delà de toute cette partie quantique pour le quantique, il y a aussi des applications où le quantique aide à des problèmes qui n'ont rien à voir. Donc, l'informatique quantique aide à des problèmes qui n'ont rien à voir avec le quantique. Et là, ça vient du fait qu'on arrive à faire certains calculs. Donc pour rechercher un objet parmi plein d'autres, des trucs avec des matrices aussi pour faire des calculs sur des matrices. Et ça peut être utile dans plein d'industries finalement. Donc en logistique, par exemple, si on doit déplacer beaucoup de marchandises et qu'on a des moyens limités pour faire ça, là ça va être super utile. Mais aussi dans d'autres cas, si tu veux faire des simulations, je sais pas moi, le design d'une aile d'avion par exemple, tu as besoin de bien comprendre, faire des simulations de comment l'écoulement de l'air se passe. Donc là, l'ordi quantique, il peut aider à résoudre les équadifs qui permettent de faire ça. Tu peux avoir d'autres cas d'usage comme ça dans les domaines qui n'ont rien à voir avec le quantique à la base.
Et effectivement, on comprend là que c'est pas nos vies perso quotidiennes qui vont changer avec ça, mais c'est beaucoup plus à l'échelle de, des industries, de, mais du coup de la société tout entière, qu'il va pouvoir y avoir des implications réelles et importantes en fait.
Ouais.
C'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir parfois cette sensation que, ok, on va parler beaucoup d'un sujet parce que ça fait bien, mais là on est dans un cas où on sait qu'il va y avoir des trucs intéressants qui vont se passer, quoi. C'est une certitude.
Exactement. Exactement. Et en fait, c'est parce que la théorie est super bien développée. Et autant, on disait tout à l'heure, le hardware quantique, il existe, mais il a encore des progrès à faire. Bon, la théorie aussi, on peut toujours faire des progrès, mais on a déjà un certain nombre d'algos quantiques, on sait à quoi ils servent, et les applications, elles sont déjà en partie trouvées, quoi.
Donc en fait, c'est comme si tu avais ton programme codé en Q-sharp. Il existe, il est codé. On sait qu'il va permettre de faire telle action révolutionnaire. C'est juste qu'on n'a pas encore le matos pour le faire tourner.
Ouais, il y a un peu de ça.
Il n'y a pas un côté un peu frustrant pour toi en tant que développeur?
Alors, on a déjà... alors il y a plusieurs choses. On a déjà du petit matos pour tester sur des petits cas. Et d'ailleurs, sur le côté, on n'a pas chacun notre ordi quantique chez nous. Un peu quand même, parce que dès que tu as une connexion Internet, en fait, tu peux aller, par exemple, sur Azure Quantum, et hop, ça te connecte à un ordi quantique. Et tu peux tester comme ça chez toi sur un ordi quantique qui, lui, n'est pas chez toi. Mais voilà.
C'est ce que j'allais dire. Mais est-ce que...
Sur un nombre de qubits limité, quand même.
Sur un nombre de qubits limité.
Oui, évidemment.
Tu vas pas pouvoir lancer des simulations de fou, mais tu peux quand même déjà aujourd'hui t'amuser avec quelques qubits, et ça, c'est cool.
Ouais.
Mais est-ce que t'aimerais être, tu vois, dans le futur et pouvoir aller enfin tester certains programmes sur des ordis finis?
Alors oui, mais ce qui est super, c'est que finalement, ce que je peux faire dès aujourd'hui, c'est donc écrire tout un programme en Q-sharp, et quand je veux le faire tourner, je le fais pas tourner vraiment, donc dans le sens où ça va pas me donner le résultat du calcul, mais je le mets sur un estimateur de ressources, et il va me dire, bah voilà, si tu voulais le faire tourner, t'aurais besoin de tant de qubits, t'aurais besoin d'appliquer exactement telle porte, donc telle façon de manipuler l'information.
Et pendant tant de temps, t'aurais tel résultat.
Et voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, tu sais combien de temps ça dure. Donc quelque part, en tant que développeur quantique, tu peux savoir dès maintenant quelle application a du sens, quelle application a moins de sens. Tu peux faire les tests.
Mais je te propose qu'on y aille. On fait la petite démo. Donc là, évidemment, tu vas sortir l'ordinateur quantique qui est dans ta poche.
Exactement. Non, je me connecte à un laptop, tout ce qui est de plus normal. Mais c'est vraiment ça l'avantage. C'est ça qui est génial avec le cloud, c'est que n'importe qui peut faire ça, en fait. Donc là, peut-être qu'on en reparlera, mais toute cette démo que je peux faire, n'importe qui peut la faire.
Ok, trop bien.
Il n'y a aucun problème.
Trop bien. Ouais. Bah, écoute, je...
Donc là, on a... donc vous voyez mon écran, on a un programme Q-Sharp, donc.
Attendez.
Je ne sais pas si votre...
Ah bah d'accord.
Il y a la latence. Surtout que comme on a eu des trucs de réseau, normalement, ça devrait pas tarder.
Il y a un repo GitHub public?
Oui.
Les gens peuvent récupérer.
Oui, complètement.
Ton
code Q-Sharp. C'est quoi comme extension de fichier?
.qs.
.qs. Trop bien.
Tout simplement. Ouais, il y a un repo. Donc là, en plus, c'est un sample que j'ai pris sur Microsoft.quantum.
Ouais.
Je l'ai un tout petit peu changé, mais à peine. Okay. Donc vraiment, c'est un truc que les gens peuvent aller. C'est sur GitHub, effectivement.
Ouais. Alors, on va bientôt avoir le. Évidemment, on a un problème de NDI. C'est comme ça passe par le réseau. C'est ça, que c'est là où on est des génies, c'est que tout
salut
on Coucou a le petit débug en live. Le type qui parfois est chroniqueur, donc de toute façon ça lui change pas d'habitude. Hein.
Oui.
C'est juste que c'est là en termes de
mood, je pense. Il a réussi à trouver.
On dit coucou à Thiel dans le chat. Bonjour Thiel.
Salut. Rigole bien.
Il me disait, normalement, j'ai rien à faire pendant le live, parce que s'il se passe pas de problème, normalement, tout va bien.
Oui, voilà, comme d'habitude.
Et là, voilà. Je le vois essouffler, donc...
Ah, c'est pas un ordi qui t'appartient ?
C'est la...
Si, si.
C'est la fameuse...
Non,
c'est la loi de Moore.
Oui, donc du coup, on
n'a
pas,
pas
la main là-dessus.
Si, non, si ça, quelque chose va aller mal, ça ira mal, c'est ça ?
Ouais, c'est la loi... C'est de la loi de Murphy.
Murphy.
Moore, c'est les processeurs qui divisent par deux.
Oui.
Qui est fini, d'ailleurs, ça, non ?
Ça stagnait un peu, effectivement. J'ai l'impression.
Et du coup, c'est de ce que je comprenais, justement, en plus, ce qui est fou, c'est que je n'ai pas fait exprès, mais c'est totalement un rapport avec nos discussions, puisque c'est du fait que les transistors se deviennent tellement près que, justement, on commence à rentrer dans des erreurs qui viennent de l'infiniment petit, de la physique des particules.
Ouais, c'est ça. Ouais, donc, effectivement, loi de Moore, on a deux fois plus de puissance de calcul, je crois que c'est tous les 18 mois ou quelque chose comme ça.
Et ce qui s'est vérifié pendant très longtemps, voilà, les processeurs étaient deux fois plus puissants ou deux fois moins chers.
Voilà, et aussi deux fois plus petits.
Ouais.
Et en fait, là, effectivement, on arrive à l'échelle atomique, nanomètre. Je crois qu'on peut. Il y a des trucs qui sont gravés à 2 nanomètres ou 4, je ne sais plus exactement les chiffres.
Ouais, c'est incroyable.
C'est quelques nanomètres en tout cas.
Ouais.
Et là, effectivement, à cette échelle, tu commences à avoir de plus en plus d'effets quantiques. Et donc, c'est un peu la barrière. Et c'est une des explications du fait que la loi de Moore, ça commence à ralentir. À limite,
mais qu'il n'avait pas anticipé à l'époque, au moment où il a dit.
Il s'était peut-être pas dit qu'on irait jusque-là.
Mais oui, c'est ça. Ça se trouve, c'est peut-être ça.
On est allé beaucoup trop loin.
2 nanomètres en fait. Pour 2023. Ça, mais c'est peut-être le. C'est peut-être le... Enfin, comment dire, le record. Je pense que ça m'étonnerait que ce soit sur le marché. Je me dis, oh,
c'est bon.
Let's go.
Trop bien. Nice.
Super. Donc, on reprend. L'idée, c'est qu'on fasse une petite démonstration. Là, tu as actuellement du code .qs, qui est la meilleure extension au monde. Donc, Quantum Sharp.
Q-Sharp, ouais, absolument.
Voilà, Q-Sharp.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Donc ça, c'est du code quantique.
Oui, mais alors, en fait, ouais, c'est ça. C'est du code qui peut être exécuté sur du hardware quantique, en fait. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, quand on regarde là, ça ressemble tout à fait à n'importe quel code.
Totalement, en effet.
Donc, on n'est pas dépaysé, en fait.
Oui, c'est vrai.
Donc, si tu regardes, là, tu as une fonction, effectivement, elle va prendre une variable en argument. Le type, c'est un entier. Donc, ça, c'est un type qu'on va retrouver, en plus, dans des langages de programmation classique. Donc,
ouais,
rien de super dépaysant, là.
Alors, qu'est-ce que ça fait, ce truc?
Ouais.
Je vois des angles.
Effectivement. Alors, peut-être juste pour dire... Donc, il y a des aspects que tu retrouves dans n'importe quel langage classique, mais... T'as quand même des types là quand tu vois qubit crochet, donc c'est un tableau de qubits. Là, tu commences à te dire bon.
J'ai jamais utilisé ça moi.
Ça pour le coup, c'est un langage quantique.
Ouais.
Alors qu'est-ce que ça fait? Donc là, c'est un programme qui implémente l'algo quantique de Grover.
D'accord.
Et ça, je suis content d'en parler parce que c'est un. Il y a deux algo quantiques qui sont super connus. Il y a l'algo de Shor et il y a l'algo de Grover. Donc c'est sans doute le deuxième algo quantique le plus connu. Et lui, ce qu'il fait, c'est que il est capable de retrouver un élément parmi plein d'éléments.
D'accord.
Un très grand nombre d'éléments.
Ouais. Donc, il recherche dans une liste, en gros, non?
C'est ça. Mais une liste qui serait pas triée, une liste qui aurait aucune structure.
Oui, d'accord.
Moi, j'aime bien, il y a une image que j'aime bien pour parler de ça, c'est Où est Charlie? Trouver Charlie. Je sais pas si vous voyez le livre pour les mains, là. Donc, t'as cette double page, t'as plein de personnages dessus, t'en as peut-être 10 000, disons. Et t'en as un, c'est Charlie. Et tu sais très bien à quoi il ressemble, Charlie. Il a des bandes blanches, il a des bandes rouges.
Ouais.
Voilà, si tu le vois, tu vas le trouver. Mais comment tu fais pour le chercher? En fait, tu regardes le premier personnage, tu dis, c'est pas Charlie. Tu regardes le deuxième et ainsi de
suite. C'est ça. Alors, juste pour, du coup, c'est un hash pour savoir, c'est ça? En gros, tu vas comparer des...
Non, alors là, c'est pour expliquer comment on ferait pour trouver Charlie sans ordi quantique, en quelque sorte. Où finalement, tu testes les cas un par un.
Ouais.
Si tu as 10 000 objets. Alors oui, alors peut-être que tu vas regarder son hash, mais ce qui compte, c'est que tu les testes un par un.
C'est la mécanique. Mais effectivement, ça me parle totalement, puisque c'est souvent parmi les premiers exercices que tu fais quand tu arrives à une école de code à l'université, c'est aller retrouver un élément dans une liste, etc. Et donc, j'imagine que la manière de faire à l'université est archaïque par rapport à ce que tu peux faire avec ton ordi quantique.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'approche quantique, tu vas pouvoir faire des superpositions. Donc, on retrouve un peu la notion qu'on avait au début sur l'atome qui a des probabilités d'être à différents endroits. Et donc, tu fais ça. Et ce que tu peux imaginer, c'est que tu as ta double page là, avec tes 10 000 personnages. Il y en a un, c'est Charlie. Et à chaque fois que tu appliques la fonction de recherche, en fait, tu vas flouter un peu tous les personnages sauf Charlie, tu vois.
Ouais.
Alors, si tu le fais juste une fois, ils sont à peine floutés, donc tu vois pas la différence. Mais si tu le fais une centaine de fois, ils vont être tous archi floutés et t'en as que un, l'objet que tu cherches, qui va ressortir.
C'est marrant. C'est très marrant comme analogie. Mais du coup, il y a une approche très probabiliste, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, l'algo va pas te dire ceci est Charlie, il va te dire il y a 0,99,99999% de chance que ce soit Charlie.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il va vraiment le faire sortir du lot de façon probabiliste, exactement comme tu as dit.
C'est hyper intéressant. Ouais. Ok.
Et du coup, comme on en parlait plus tôt, et moi, ça m'a aidé à comprendre, il faut quand même runner l'expérience plusieurs fois. Si tu veux avoir ça, la distribution de probabilité de chance pour qu'il soit à un certain endroit, il faut que.
Bien sûr. Tu vois, tu augmentes, tu vérifies de plus en plus ton.
Tu regardes la probabilité qui est un peu partout et qui, au fur et à mesure du nombre d'expériences que tu runs, augmente à l'endroit où Charlie est.
C'est comme tu dis.
Aux autres endroits, s'efface un peu.
Le truc, c'est comme si on voyait une heat map ou une vision de la carte.
Ouais.
Tu aurais ce truc où tu as un point qui
monte,
sort du lot.
C'est ça, t'en as un qui sort du lot.
C'est hyper stylé.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que typiquement, si tu as 10 000 personnes, il suffit de le faire une centaine de fois. Donc tu vas beaucoup plus vite avec cette approche quantique qu'avec l'approche classique.
Et ça, c'est, alors, ça peut paraître anodin pour les gens qui nous écoutent, le côté « oui, bon, bah, on savait déjà le faire avant, on savait trouver Charlie, c'est juste que maintenant, au lieu de faire 1000 itérations, eh ben, on en fait 100 ». Mais en fait, il y a un truc qui est méga intéressant et que toutes les entreprises recherchent dans tous les projets, c'est cette histoire de complexité qui fait que, ok, bon là ça paraît des nombres un peu ridicules, entre 1000 et 100, bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'évolution de ce nombre-là. Parce que quand on arrive sur des échelles gigantesques d'Internet, où voilà, vous avez des centaines de data centers, vous voulez retrouver un truc au milieu, bon, c'est des images, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, si on pousse les curseurs très très loin, cet écart entre 100 et 1000, en fait, il va devenir monumental. Et du coup, c'est game changer quoi, pour des boîtes. C'est un peu ça.
C'est exactement ça. Et là, en l'occurrence, si on cherche un élément parmi 1 million maintenant, bah, l'algo quantique, il va mettre que 1000 étapes. Et en fait, c'est la racine carrée. En fait. Donc, si tu as n objets, ça va être racine carrée de n, le nombre d'étapes qu'il faut. Donc, plus tu as un ensemble avec un grand nombre d'objets, plus l'avantage quantique va être important. Quoi,
t'aplatis ta complexité.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est une meilleure complexité. Donc, ça, c'est vachement bien.
Ouais. Alors, on sait que c'est pas forcément des notions qui sont hyper, hyper évidentes, mais en fait, c'est ce qui se trame dans les équipes techniques. Ouais. Et en fait, ça intéresse beaucoup tous les développeurs, évidemment.
Ouais. Et alors là, donc, on a une version un peu particulière de cet objet marqué, cet objet que j'ai appelé Charlie là tout à l'heure. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que on va utiliser, donc comme je disais, un tableau de qubits ici. Donc disons qu'on en prend, peut-être que si on veut plus de 10 000 personnages en tout, on peut prendre 14 qubits, par exemple. Pourquoi 14? Parce que finalement, le nombre de résultats possibles, c'est 2 puissances le nombre de qubits que tu as.
Okay.
Parce que chaque qubit, quand tu le mesures, c'est comme en classique. Il peut prendre que deux valeurs, soit 0, soit 1, quand tu le mesures. Et donc, si tu en as 14... À 2 puissance 14, ça fait,
oui,
ça fait plus que 10 000 et du coup, tu y es. Donc là, c'est ça qu'on va faire. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui est marqué et c'est celui qui est indicé par 0, 1, 0, 1, 0, 1 et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Alors, c'est peut-être pas hyper clair quand on voit le code, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on dit qu'à un élément sur deux du tableau, on va appliquer cette porte quantique X et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un qubit qui est dans l'état 0 et elle le met dans l'état 1.
Okay.
Donc voilà.
Et ça, on peut le lancer, ça?
Et ça, on peut complètement le lancer. Donc ça incroyable. Va se passer ici. Donc là, on voit qu'on a l'entry point qui est ici. Et là, c'est l'algo de recherche qu'on va lancer. Alors, on va le lancer. Donc, on va faire .NET run pour commencer. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cet algo de recherche, il n'a pas l'info.
Est-ce que tu peux agrandir le terminal un petit peu en bas? Comme ça, ça va passer au-dessus.
Ouais, voilà.
Parfait.
En fait, cet algo de recherche, là, il n'a pas l'info de quel est le bon état. Et il va devoir le retrouver en faisant un certain nombre d'itérations. Et là, on voit qu'on l'a lancé sur 10 qubits. Donc, en seulement 24 itérations, il a pu trouver le bon état.
Attends, donc là, ton code, il vient de tourner sur un ordi quantique.
Alors là, ça n'a pas vraiment tourné sur un ordi quantique. Là, ça a tourné sur un simulateur en local sur ma machine. Donc là, on y va. On va faire ça.
Ok.
Mais on y va tranquillement.
Ouais.
Donc, si je lance sur 14 qubits, comme je disais tout à l'heure, bah là, pour le coup, ça va effectivement avoir un nombre de possibilités qui est plutôt 16 000 quelque chose. Et voilà, en une centaine d'étapes, on retrouve à nouveau le bon état, le 0, 1, 0, 1, 0.
Ok.
Alors, est-ce qu'on le lance maintenant sur Azure Quantum?
Carrément.
Alors là, c'est une autre ligne de commande. Donc cette fois-ci, on va quitter, on va plus être en local sur ma machine.
Donc là, en fait, t'as un SDK spécifique pour,
ouais, c'est ça,
pour
c'est
le
ça,
quantique.
C'est ça. Donc là, j'utilise la CLI Azure Quantum.
Voilà, vous utilisez plein de mots complexes là. Ouais. J'ai peur qu'on perde des gens. Moi, je suis le garant du vocabulaire. Donc, tu utilises un outil pour les développeurs qui te permet de faire ça en particulier. Mais là, du coup, ce que tu expliquais, c'est que on part du local, entre guillemets, on part de ton ordinateur, puisque évidemment, ce n'est pas un ordinateur quantique, ça ressemble, c'est un ThinkPad, voilà. et donc là, pour le coup, on va, grâce au cloud à Azure, on va pouvoir utiliser un vrai ordi quantique.
C'est ça. Alors, j'y vais par étapes. Donc là, pour ceux qui ont regardé, j'ai effectivement lancé sur Azure Quantum. Donc, ça part dans le cloud. Et là, j'ai utilisé un simulateur, mais qui est un simulateur custom cette fois-ci.
D'accord.
Qui simule exactement les mêmes qubits que ceux que font ce fournisseur de hardware quantique qui est IonQ.
Ok.
Donc si on regarde, en fait, il y a un certain nombre de fournisseurs de hardware quantique qui vont être dispo.
Et je vois le chat qui est extrêmement concentré, ça me fait mourir de rire. Tout le monde essaye de comprendre, mais c'est vrai que c'est des notions qui ne sont pas évidentes.
C'est super compliqué.
C'est pas très très facile à comprendre, mais franchement c'est passionnant.
Quand je fais la pause déj avec Vivien, des fois j'ai le cerveau qui explose.
C'est reposé normalement.
Ouais, là il repose pas là.
Donc là ce qu'on voit, c'est que finalement on peut le faire tourner sur différents targets, différentes cibles.
D'accord. Donc aussi qui sont dans un data center.
Alors non, en plus c'est des partenaires à IonQ, okay. Honeywell, donc c'est chez eux.
Oui, je vois.
Et donc sur quoi on l'a fait tourner, c'est sur ce simulateur IonQ.
Et donc là, au-dessus c'est des vrais.
Mais ce qu'on voit aussi au-dessus, c'est que là il y a marqué QPU, donc là pour le coup Quantum Processing Unit, et là c'est du vrai. C'est comme un CPU, mais là c'est du vrai.
Donc là on l'envoie sur un ordinateur quantique quelque part aux États-Unis.
Exactement.
Dans les laboratoires.
Alors je crois que IonQ, c'est chez IonQ, donc eux je crois qu'ils sont sur les côtés.
Incroyable.
Et donc là c'est bon, là on l'a lancé, et donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder les résultats tout simplement. Donc je vais le faire.
Donc là il y a nos petites données là qui sont baladées et qui sont allées sur, comme tu disais, interagir avec des électrons, des lasers, des trucs comme ça.
Ouais, c'est ça. Alors eux c'est des ions piégés, donc c'est exactement ça. Okay. Et en fait c'est dans une chambre à vide, t'as quelques ions qui sont bien isolés et ils vont prendre une impulsion laser et ça va changer un peu leur état et ça va réaliser le calcul qui est prévu dans le code Q-Sharp qui est sur ma machine ici.
Incroyable.
Donc c'est quand même assez incroyable. Et ça, c'est un truc que vraiment tout le monde peut faire, quoi. Il n'y a aucun problème.
Et donc là, il y avait 14 qubits, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et donc, ça veut dire qu'il y a 14 ions, quelque part, qui ont été excités à des états différents,
ouais.
C'est ça ?
Ouais. Alors c'est bien que tu dis ça, parce que ça me fait réaliser qu'il se trouve que cette machine, la IonQ, elle n'a que 11 qubits de dispo.
Ok. Ah.
Donc là, le job que j'ai envoyé, il va sans doute rater. Il va sans doute fail.
Ah, ok.
Donc, en fait, ce que je voulais faire, mais j'ai oublié, je voulais l'envoyer non pas sur 14 qubits, mais sur seulement 3 qubits.
Okay. Ah, t'as vu, j'ai suivi.
Je vais bien jouer. Correction.
Et du coup, de toute façon, ça se serait vu, parce que là, quand je vais mettre le résultat du simulateur,
ouais.
En fait, ce qui se passe, c'est que t'as une file d'attente, donc ça met un peu de temps côté ordi quantique. Donc, je vais vous montrer le résultat, non pas du job que je viens d'envoyer, mais d'un que j'ai remis.
Fait, ok, pas de souci. On fera une coupe.
Donc, c'est bien sur 3 qubits. Et donc là, on peut regarder le résultat du simulateur. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, quand on a envoyé ce job sur le simulateur, on va avoir le bon état, celui qu'il devait trouver, donc le fameux 0-1-0. Ouais. Donc là, c'est sur seulement
3. Sur 3, c'est pour ça.
Il ressort, alors pas à tous les coups, mais
si je peux me permettre, il y a un petit effet où on vient de résoudre un problème pas très dur. J'imagine que c'est normal. C'est, pour l'instant, bon, on est entre guillemets réduit à ça, c'est que on fait des tests, quoi. Mais là, on a trouvé 0-1-0 dans une liste de 10.
C'est sûr. Non, c'est une preuve de concept. Mais l'idée, c'est de se dire que si c'était sur un nombre de possibilités absolument énormes, on trouverait quand même en un temps bien plus court que ce qu'on peut faire en classique. Mais oui, non, je suis d'accord. Finalement, il n'y a que 8 éléments.
Et donc là, c'est ce qu'on disait, en fait. L'expérience a été renée plusieurs fois. Et là, on voit les probabilités de chance pour que... En fait, c'est les probas qu'on a mesurées au moment où on a collapsé le résultat.
C'est ça. Au moment où tu fais la mesure, tu as différentes probas. Et on voit que le bon résultat, il sort que dans 95% des cas à peu près.
Ouais.
Et donc, tu as autre chose.
Il y a un taux d'erreur qui est encore assez important.
0,8% des cas à peu près pour les autres. Mais ce n'est pas très grave parce que nous, ce qu'on veut, c'est trouver cet élément. Donc, si on ne le trouve pas du premier coup, on recommence. Et vu qu'on a le bon dans 95% des cas, assez vite, on est sûr d'avoir le bon.
Ouais.
Très stylé. Très cool.
C'est pas un problème. On peut regarder. Donc, ça, c'était le résultat du simulateur. Donc, on peut regarder aussi le résultat du vrai calcul. Donc, QPU output. Et là, on va voir le résultat du vrai calcul. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu moins bien.
Il galère le qubit.
Dans le sens où on trouve quand même le bon résultat dans 44% des cas, là. Mais on trouve les autres un peu plus.
Mais donc, je comprends pas du coup pourquoi... Tu dis, là, on regarde le vrai résultat. Et du coup, pourquoi il est moins bien,
Parce que c'est le résultat qui a été envoyé, qui a été effectué par un vrai ordinateur quantique. Qui, pour l'instant, a un taux d'erreur assez...
Ah, parce que tu veux dire celui d'avant, c'est simulé.
C'est simulé.
Pardon,
c'est ça. Ouais, non, c'est ça.
Et donc, là, ça veut dire qu'on va devoir faire pas mal d'itérations pour corriger un maximum les
c'est
erreurs.
C'est ça, et en fait on voit ce qu'on dit tout à l'heure, que le hardware quantique il fait encore un peu des erreurs, mais qu'on peut déjà commencer
on
à...
On peut commencer à tenter, ok.
C'est ça.
Et alors, question, merci beaucoup déjà pour cette démo, c'est trop cool, en vrai ça m'a donné envie d'aller essayer. Le chat peut aller essayer s'il veut.
Le chat peut complètement aller essayer, en plus ce qui est génial c'est que c'est gratuit, parce que si tu fais ton compte Azure et tu déclares le service Azure Quantum, et en fait... par fournisseur de hardware, tu as $500 de gratuit.
Ok, trop bien.
Et $500, c'est très très large.
Ouais,
tu peux largement faire tous ces tests, donc tout le monde peut faire ça. Ouais.
Alors justement, on a parlé du fait que là, c'est un POC. Maintenant, en termes de timeline, parce que je meurs d'envie, évidemment, maintenant tu nous as hypé tous, on meurt d'envie de voir des trucs impressionnants, cette fameuse suprématie quantique où on va arriver à faire des trucs qui n'étaient pas possibles avant. Tu te dirais que... il y a combien de temps avant de voir des trucs vraiment impressionnants?
C'est dur à dire, mais y a beaucoup de gens qui tentent des estimations. Et parfois on entend 5 ans, parfois on entend 10 ans, parfois on entend un peu plus. En fait, c'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe un truc en ce moment, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui s'intéressent au domaine. Il y a énormément d'investissements publics, d'investissements privés. Et donc, c'est un domaine qui est en plein boom en ce moment. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui nous manque là, c'est la correction d'erreur, on appelle ça. Donc, on a vu là, en fait, on a encore du hardware quantique qui fait des erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on arrive en dessous d'un certain niveau, s'ils ne font pas plus qu'une erreur toutes les 1000 ou 10 000 opérations, il y a des méthodes pour faire, à partir de beaucoup de mémoire quantique, un peu moins de mémoire quantique, mais de bien meilleure qualité.
Okay.
Et donc là, on va pouvoir avoir les cas d'usage dont on parlait avant,
okay.
Où il faut faire typiquement 1000 milliards d'opérations. Et donc, je pense que quand le hardware quantique sera à ce niveau, ce qui, on l'espère, va arriver le plus vite possible, il va y avoir vraiment un gap le jour où on arrivera à mettre en place cette correction.
Allez,
un
10 peu, ans. 10
on doit mouiller 10 ouais. ans, ouais. Ça te paraît raisonnable?
Ouais, je pense. Je
allez.
Pense.
C'est...
en vrai, c'est pas si loin, franchement.
Ouais.
C'est ça qui est cool, c'est que c'est pas parmi ces technologies qu'on verra pas de notre vivant, quoi. C'est ça, on va le voir.
On verra de notre vivant, tu
ouais,
penses?
Ouais, non, ouais, je pense. Ouais.
Ouais.
Je trop pense.
Bien.
Ça
c'est
me
cool.
paraît assez probable. Ouais.
Trop bien.
Hypé de ouf. On va justement passer au gros sujet qu'il y a, c'est l'aspect de sécurité, les conséquences que ça pourrait avoir et à quel point ça pourrait un peu déstabiliser la manière dont marche l'informatique et Internet aujourd'hui. Concrètement, j'ai déjà entendu le fait que l'informatique quantique pourrait casser le chiffrement d'Internet aujourd'hui, des banques, de nos applications sécurisées, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, y a une partie de la façon dont on fait de la cryptographie aujourd'hui, la cryptographie à clé publique,
ouais.
Qui effectivement est mise en danger par l'ordinateur quantique.
Et qui est partout, pour que tout le monde comprenne vraiment l'aspect symétrique. C'est dès qu'on a des interactions, WhatsApp par exemple, ça utilise du chiffrement asymétrique, on est bien d'accord?
Oui, en fait, effectivement, dès que tu fais une signature numérique ou dès que tu as un échange de clés au début, ça va utiliser ce chiffrement à clé publique et donc ça pose problème pour ça. D'où ça vient ça, en fait? C'est parce que les ordinateurs quantiques sont capables de factoriser des très grands nombres. Et ça peut paraître... Donc factoriser, ça veut dire, par exemple, Tiffany, si je te dis 21... 3 fois 7, voilà. Donc là, Tiffany, elle a factorisé 21, donc t'es un peu un ordinateur quantique. Mais ce qui se passe, c'est qu'un ordi quantique, il peut le faire sur un nombre bien plus grand. Donc là, si on prend 21 et qu'on devait l'écrire en binaire, donc 21, c'est 16 plus 4 plus 1.
Ouais.
Donc en binaire, ça va s'écrire 1, 0, 1, 0, 1. Donc ça s'écrit sur 5 bits, finalement. Donc ça, c'est facile, même pour un ordinateur classique, il n'y a pas de problème. Mais... La cryptographie à clé publique, enfin certaines implémentations, ça fonctionne parce que c'est difficile de factoriser un très grand nombre qui va s'écrire typiquement sur 2048 bits, ouais. Ou c'est cet ordre de grandeur là quoi.
C'est ça l'élément clé, c'est que ça peut paraître anodin, juste le fait de retrouver les nombres de factorisation d'un très 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 gros nombre, sauf qu'en fait on ne réalise pas, parce que quand on ne travaille pas dans ce métier-là, mais c'est le fondement même des chiffrements asymétriques RSA et compagnie. Mmh. Et donc, ce que vient de faire Tiffany de tête, un ordinateur quantique va pouvoir le faire plus vite qu'on pouvait avant, c'est ça?
Oui,
sur
c'est
des
ça.
Très grands nombres.
C'est ça, ouais. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est plus vite, mais c'est aussi que le temps de calcul avec un ordi quantique, il augmente assez lentement avec le nombre de bits qu'il faut pour écrire la clé.
Ouais, donc, ce dont on parlait, c'est cette complexité est réduite.
Ouais, c'est ça. Donc quelque part, ça servira à rien de prendre des clés juste plus longues. Avec cette façon de faire, l'ordi quantique, il va mettre un petit peu plus de temps, mais il va finir par y arriver, quoi.
Ce qui est insane, parce que aujourd'hui, on le disait, c'est vraiment partout, tout Internet quasiment marche avec cette technologie de chiffrement là, et donc on a tous en tête que ok, ben voilà, si on utilise des clés RSA avec, je sais pas, 1024 bits, 2048, les temps de calcul pour casser ça, c'était, je sais pas, des milliards d'années. Donc tout le monde, tout Internet est basé là-dessus, et tout le monde est serein à propos de ça. Là, ce fait là que un jour l'informatique quantique pourrait complètement mettre ça à plat, c'est un peu terrifiant, non?
C'est un peu terrifiant. Heureusement, donc il y a deux heureusement. D'une part, les machines actuelles, celle à laquelle on s'est connecté par exemple, elle est très très loin de pouvoir faire ça. Donc il y a un peu de marge. Mais bon, voilà, on disait que ça allait peut-être arriver vite, donc il faut quand même faire attention. Un autre heureusement, c'est que l'algorithme qui permet de factoriser, l'algorithme quantique qui permet de factoriser, en fait, il a été inventé il y a longtemps. Il a été inventé en 94. Et donc, depuis les temps, les gens ont eu le temps de réfléchir. Et donc, dans la communauté cryptographique, il y a plein de gens qui, depuis longtemps, ont commencé à se dire, est-ce qu'on pourrait pas changer la façon dont on fait de la cryptographie pour trouver une façon de faire qui soit, bon, résistant à des ordinateurs classiques, hein, mais aussi résistant aux ordinateurs quantiques, qui soient à la fois de grande taille. Donc,
Ça
a déjà été théorisé. Et donc, c'est ça, le chiffrement post-quantique, la cryptographie post-quantique. En fait, ça n'a rien de quantique. C'est juste une façon de faire comme ça de la cryptographie à clé publique qui n'est pas attaquée, qui n'est pas mise en danger par l'ordinateur quantique. Et ça, on sait comment faire.
Donc, c'est-à-dire que pour se protéger dans l'ère post-quantique du fait qu'il y aura des ordinateurs quantiques, on crée des nouveaux algorithmes qui, comme tu le dis, fonctionnent sur des processeurs en fait normaux.
C'est ça.
Mais vont nous protéger.
C'est ça, c'est ça.
Et alors, pour savoir, ça existe déjà. Enfin, pourquoi c'est pas le branle-bas de combat là? Tu vois, pourquoi on n'est pas tous en train de tout changer là?
En fait, là, on est encore dans la phase standardisation. Donc, en 2016, il y a eu un appel à standardisation. Donc, il y a eu une centaine de projets donc de chiffrement post-quantique qui ont été proposés. Ils ont fait des tours éliminatoires. Parce que sur un protocole de chiffrement, s'il y a le moindre doute, sur un protocole de cryptographie, au moindre doute, on arrête, on en prend un autre. Quoi.
Ouais.
Et donc là, il reste que les candidats sur lesquels on a aucun doute. Et eux, il y en a un ou plusieurs d'entre eux qui vont être standardisés. Et à partir de ce moment-là, ça sera effectivement le branle-bas de combat pour changer partout où on a besoin de cryptographie avec les publics pour mettre ces nouveaux cryptosystèmes.
Donc ils sont pas encore choisis là à l'heure actuelle encore.
Non, on en est au troisième round et ils vont bientôt annoncer les standards.
Depuis 2016, ils ont cette conversation.
C'est ça, ils prennent leur temps, mais ils ont raison de prendre leur temps.
Ouais.
Je pense que la communauté cryptographique fait les choses bien.
Okay.
Parce qu'on veut être sûr aussi que sur ces nouveaux cryptosystèmes, il n'y ait pas d'attaque par un ordinateur classique. Ça serait con, quoi.
Il faudrait que ce soit résistant aux deux.
Donc voilà, il faut que ce soit résistant à la fois à nos machines classiques actuelles et aussi aux ordinateurs quantiques. Okay. Qui seront sans erreur et avec beaucoup de cuite.
T'as peur pour ta banque, peut-être, Tiffany?
Bah, en vrai, oui. Enfin, on se pose la question.
Bah ouais.
Mais après, comme j'en parle beaucoup...
Il va falloir changer ses clés SSH.
Tout. Après, quand j'en parle beaucoup avec Vivien, j'ai quand même une bonne vision de l'état de l'art aujourd'hui, de où on en est. D'ailleurs, c'est des conversations qui sont vraiment super cool.
Passionnantes. Bah, je l'ai vu dans le chat, vraiment.
Ouais.
C'est un sujet, vous le savez, dont on peut parler des heures.
Ouais.
Je pense que pour clore la discussion, j'ai une question finale qui a été posée énormément dans le chat. C'est, est-ce qu'on pourrait devenir riche en minant avec un ordinateur quantique?
Alors non, désolé.
Comment il a brisé le rêve de tout le monde en 3 secondes.
Ça marche pas pour
ça. Pas de bitcoin gratuit.
Ça marche pas pour ça. Non, parce que pour le minage, l'ordinateur quantique, il apporte rien.
Ah, déçu. Vivien, t'es viré apparemment. C'est Gabin qui comptait s'en mettre plein les poches. Feels bad, man. Merci en tout cas, c'était vraiment passionnant, franchement. On te retrouve sur Twitter, peut-être?
Oui.
Est-ce qu'on peut suivre l'actu?
@Vivien_Londe sur Twitter.
Voilà, oui, dans le chat.
Et puis je mettrai, j'ai un site aussi où je fais des vidéos de vulgarisation du quantique. Et j'ai un blog aussi où je parle de quantique aussi.
Trop bien.
Et donc on pourra mettre ça.
Voilà, on suivra peut-être tes découvertes chez Microsoft. On te souhaite en tout cas de bien t'éclater, parce que franchement, ça doit être un
débat
bien cool.
Ouais.
Bah, c'est super. Bah, merci, c'était super d'être là en tout cas.
Et avec grand plaisir.